VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Afrique du Sud, le vice-président Cyril Ramaphosa, élu le mois dernier à la tête de l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir, s'est félicité dans un discours télévisé aujourd'hui des procédures judiciaires engagées contre des entreprises accusées de corruption. L'autorité judiciaire nationale a commencé à agir et nous nous félicitons des actions qu'elle entreprend et nous l'encourageons à agir d'urgence, a déclaré le vice-président Ramaphosa, qui tente de se démarquer des scandales entourant le gouvernement du président Jacob Zuma. Au Tchad, Mariam Djimet Ibet, maire de N'Djamena, et deux de ses adjoints suspendus par le gouvernement pour mauvaise gestion des finances de la mairie. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP une source proche de la mairie de la capitale tchadienne. Selon cet employé de la mairie, Madame Djimet Ibet aurait procédé à des recrutements fantaisistes depuis son arrivée à la tête de la mairie en novembre 2016. Une mission de contrôle de l'État avait décelé en 2017 plusieurs malversations financières et à la mi-janvier, le ministère tchadien des Finances et du Budget a dépêché à la mairie une mission d'inspection pour procéder à un contrôle du personnel et vérifier le nombre et les identités des employés. Le Tchad a été classé par l'ONG Transparency International 159e sur 176 dans l'indice de perception de la corruption en 2016. Au Gabon, l'opposant Jean Ping, convoqué comme témoin par la justice et interdit de quitter le territoire pour les besoins d'enquête, a déposé une requête devant la cour d'appel de Libreville, jugeant illégal d'avoir été empêché de quitter le pays ce week-end. Samedi, alors qu'il devait s'envoler vers la France, M. Ping a été stoppé par les forces de sécurité et empêché d'entrer dans l'aéroport en raison d'une interdiction de sortie du territoire demandée par le juge d'instruction pour les besoins de l'enquête. Convoqué mercredi par le juge d'instruction comme témoin dans l'enquête sur un opposant arrêté et inculpé en septembre pour complot contre l'autorité de l'État, l'opposant Jean Ping ne s'est pas rendu devant le juge. Au Congo-Brazzaville, le gouvernement et les ex-rebelles du POUL se sont rencontrés mercredi pour la première fois dans la capitale pour l'application d'un accord de cessez-le-feu signé le 23 décembre 2017. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Le temps de la paix est arrivé, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, lançant les travaux de la commission paritaire. Les représentants du gouvernement et ceux du pasteur Tata Ntoumi vont, entre autres, débattre du sort réservé aux chefs rebelles, toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt. Ils vont aussi élaborer un calendrier pour l'application de l'accord de paix signé le 23 décembre dernier. Selon cet accord, l'ex-rébellion s'engage à faciliter le ramassage des armes détenues par ses ex-combattants et permettre la réinstallation de l'État et des populations dans le pool. Elle devrait aussi y faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Pour sa part, le gouvernement se dit garant du processus de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants. Les affrontements depuis la réélection du président Denis Sassou Nguesso en avril 2016 ont mis 138 000 personnes en situation humanitaire difficile. Les violences ont aussi entraîné l'arrêt de l'exploitation du chemin de fer entre Brazzaville et Pointe-Noire.
Violence en RCA, un mort et une dizaine de blessés. Tel est le bilan de la fusillade mercredi au quartier musulman du PK5 à Bangui, la capitale. Une altercation entre hommes armés a provoqué l'incendie de plusieurs magasins au Grand Marché. Les détails avec notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Un calme précaire règne en ce moment dans le PK5. Dans la matinée, ce grand quartier commercial de Bangui a été secoué par des explosions de grenades et des tirs à l'arme automatique. Selon Dibril Youssouf, président de l'association des commerçants, joint par VOA Afrique, tout est parti d'une bagarre entre un élément armé et un commerçant chez qui il venait prélever les taxes. Propos rejetés par Almiri Matar, alias Force, un des chefs des groupes armés du PK5, affirmant, je cite, « Il y a eu jet de grenades sur le terrain de football et une personne a été tuée lorsque les éléments autodéfense ont voulu réagir. On leur a également lancé une grenade. » Fin de citation. Bilan provisoire, un mort, une douzaine de blessés et plus de 10 magasins brûlés par les hommes armés. Le président des commerçants hausse le ton.
Nous demandons au gouvernement et à la MINUSCA de prendre les responsabilités, de mettre l'ordre dans le kilomètre 5. On a fait déjà marre de ça. À chaque fois sur l'autodéfense, on a fait marre. La population respire en demi.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, Sénégal. La garde à vue a été prolongée pour 22 Sénégalais appréhendés dimanche dans l'enquête sur le massacre de 14 personnes en Casamance, dans le sud du pays. Ces suspects ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le massacre le 6 janvier de 14 jeunes gens dans la forêt protégée de Bayotte, proche de Ziguinchor, principale ville de la Casamance, qui est une région bordée au nord par la Gambie et au sud par la Guinée-Bissau. Au Ghana, le président ghanéen Nana Akufo-Addo assure que son pays va rester vigilant suite à l'arrestation d'hommes armés détenant des grenades à Accra, la capitale. Les détails avec Raïssa Girondin.
Après l'ouverture d'une enquête concernant la découverte d'explosifs dans la capitale Accra, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a promis de renforcer la vigilance face aux éventuelles menaces terroristes. Cela passera notamment par le renforcement des services de renseignement et de sécurité. Trois hommes, dont la nationalité n'a pas été révélée, ont été arrêtés en possession de grenades en début de semaine et placés en détention provisoire à Accra. Ils doivent comparaître le 30 janvier. Les enquêteurs recherchent les alliés éventuels du trio à l'intérieur et à l'extérieur du pays, jusque-là épargnés par les attaques terroristes. Le président Nana Akufo-Addo a déclaré: le Ghana est en sécurité et promet de tout faire pour que cette réalité continue. En effet, les mesures de sécurité avaient été renforcées en avril 2016 après un avertissement selon lequel le Ghana et le Togo voisin pourraient être la cible d'attentats islamistes.
Au Nigeria, les forces de sécurité ont été déployées en brousse pour essayer de retrouver les deux Américains et les deux Canadiens kidnappés mardi soir dans une embuscade dans le nord du pays. C'est ce qu'annonce un responsable militaire. Les quatre expatriés étaient en route vers la capitale fédérale Abuja depuis Kafanchan, dans l'état de Kaduna, lorsque des hommes armés les ont enlevés après avoir tué leur escorte policière près de Djéré, sur l'axe Kaduna-Abuja où les enlèvements sont fréquents. Nous sommes sur le coup et nous avons réalisé des avancées dans l'enquête, a assuré sous couvert d'anonymat un haut responsable de l'armée nigériane. Selon lui, une force spéciale a été envoyée d'Abuja et s'est associée à l'équipe qui est déjà sur place. Les quatre hommes, dont les identités n'ont pas été dévoilées pour raison de sécurité, étaient en voyage d'affaires. Et les autorités américaines et canadiennes ont seulement indiqué travailler avec les autorités nigérianes pour les retrouver. Le département d'État américain a demandé aux ressortissants des États-Unis de reconsidérer leur déplacement au Nigeria. Washington met en garde contre les crimes violents tels que les attaques armées, kidnapping, qui sont communs à travers le pays. Actualité américaine toujours, course contre la montre au Congrès américain. Si les parlementaires américains ne s'entendent pas sur un nouvel accord sur le budget d'ici demain minuit, l'administration fédérale pourrait mettre le personnel non essentiel en chômage technique, faute de financement. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
À un jour de l'échéance, le Congrès est encore loin d'un accord. Les républicains accusent les démocrates de freiner l'adoption du budget afin de renforcer leur position dans les négociations parallèles sur la question ultra-sensible de l'immigration. Les démocrates réclament un accord sur les Dreamers, ces jeunes entrés illégalement aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants, et sur le programme fédéral d'assurance santé pour les enfants pauvres. Le président Donald Trump a abrogé le programme DACA, qui a permis à près de 700 000 Dreamers de travailler et d'étudier en les protégeant de l'expulsion. Et la récente sortie présumée de Donald Trump sur Haïti et les pays africains a envenimé les débats. Les démocrates refusent aussi de financer le mur que Donald Trump veut construire à la frontière avec le Mexique. Bien que minoritaires, les démocrates peuvent tout bloquer au Sénat, où une majorité qualifiée de 60 voix sur 100 sera requise pour faire passer le budget.
Et pour terminer, le feu et la fureur, Trump à la Maison-Blanche. Le livre racontant la campagne et la première année de présidence de Donald Trump et qualifié de bidon par le chef de l'exécutif américain va être adapté à la télévision. Michael Wolff, lui-même en sera le producteur. Son livre se veut une compilation de confidences rassemblées auprès du président et d'environ 200 conseillers de M. Trump sur 18 mois pendant la campagne électorale et depuis l'élection du président. Depuis sa sortie aux États-Unis, l'ouvrage est numéro 1 des ventes sur Amazon. Il a été tiré dès la première semaine à 1 million d'exemplaires. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.